M'excuse un petit peu par avance du caractère un petit peu descriptif de ce que je vais vous présenter, mais le programme n'est pas terminé et les résultats ne sont pas encore consolidés. Donc deux mots sur le projet de recherche. Donc c'est un projet de recherche qui s'appelle « La vie des autres, prescription et jugement culturel, la force des réseaux sociaux numériques ». C'est un programme sur 2 ans, 2013-2015, qui est financé par l'Université Lyon 2. Et nous avions donc pour l'obtention du financement l'obligation de collaborer avec des laboratoires d'autres disciplines. Nous étions avec les sociologues au départ qui se sont arrêtés en cours de route. Et donc nous travaillons avec un laboratoire de psychologie sociale, le GREPS à Lyon 2. Donc c'est deux laboratoires, Helico en sciences de l'information et de la communication et le GREPS, deux laboratoires de Lyon. Donc juste pour situer le travail de chacun des laboratoires, donc nous travaillons en sciences de l'information et de la communication sur l'aspect des lieux et des acteurs de la prescription. Alors que nos collègues en psychologie sociale travaillent, eux, véritablement de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des artistes, et comment le travail des artistes, parce que ce sont des psychologues du travail, comment les activités de production artistique sont impactées par la mise en visibilité des avis et des jugements des individus et des amateurs, et comment ils intègrent eux-mêmes les réseaux sociaux dans leur pratique et leur représentation de leur métier. Voilà la manière dont les deux laboratoires abordent le questionnement. Donc rapidement, là je vais vous parler évidemment que du côté SIC. Donc ce qui nous intéresse, nous, donc, c'est d'interroger une pratique sociale discursive. Alors volontairement, je suis restée très floue sur la terminologie, c'est-à-dire j'utilise prescription, j'utilise jugement culturel, j'utilise évaluation, parce que justement nous n'avons pas voulu circonscrire et recommandations, mais nous uniquement les recommandations humaines, pas les recommandations logicielles, pas les algorithmes. Et donc, nous avons voulu englober justement toutes ces formes discursives qui produisent quelque chose a posteriori d'une expérience esthétique, c'est-à-dire les gens qui parlent de leur consommation culturelle. Donc, d'où les termes, j'ai mis entre guillemets, où nous n'avons pas circonscrit. Donc, nous intéressons aux acteurs qui produisent et aussi aux modes de circulation et de mise en visibilité de ces discours sur Internet. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont on construit du sens à différents niveaux, c'est-à-dire on travaille sur la relation entre des textes, donc des productions discursives, des dispositifs qui les médiatisent et des usages, c'est-à-dire des pratiques qui vont leur donner une forme et une inscription sociale. Donc analyser la production, la diffusion des avis, notes, critiques, volontairement je décline, liées à la culture au prisme des logiques du média, donc les logiques techniques, les logiques économiques et les logiques symboliques. Donc on essaie de travailler à différents niveaux. Donc rapidement, du coup, on articule plusieurs cadres théoriques. Un cadre théorique lié plus aux pratiques d'écriture. On analyse une logistique véritablement de la prescription culturelle par des pratiques d'écriture et de circulation et de partage. On s'intéresse à la matérialité signifiante des formes, c'est-à-dire la manière dont les gens s'expriment et s'ils notent, ils évaluent ou écrivent un long texte, c'est pas tout à fait la même chose, et la manière dont ils le rendent visible sur les plateformes. Donc je référence quelques travaux. Et puis on s'intéresse aussi donc à la dimension socio-économique, c'est-à-dire les dispositifs qui proposent les modalités d'écriture s'inscrivent eux dans des logiques économiques et quels sont les modèles derrière à l'œuvre, comment on produit de la valeur, comment on monétise ces prescriptions. L'idée étant derrière, et notre hypothèse est celle qu'on veut travailler, c'est qu'il y a un véritable marché de la recommandation de la prescription culturelle qui était en train de s'établir en parallèle de la consommation culturelle, ou en lien plutôt avec la consommation culturelle. Alors, première difficulté, c'était de circonscrire notre travail. Donc, nous souhaitons travailler sur des pratiques situées, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans des lieux physiques de mise en visibilité. Donc, techniquement, sur quel site et de quelle manière allons-nous aborder cette problématique de la prescription culturelle ? Alors, nous avons choisi volontairement, parce que déjà, nous n'avons pas les moyens de faire pour l'instant des approches quantitatives, techniquement et humainement. Donc, une approche qualitative, nous allons travailler à partir d'entretiens notamment à travers, alors pas les utilisateurs, mais à travers les responsables de plateforme. Et puis nous travaillons aussi, donc les deux, socio-économie, puis les observables, c'est-à-dire toutes les traces, donc les écrits, les notes, les évaluations, les modalités sémiotiques de ces écritures, et puis les dispositifs qui cadrent ces pratiques. Donc nous avons volontairement choisi de construire un corpus de petite ampleur, c'est-à-dire nous sommes pour l'instant plutôt dans l'accumulation d'études de cas. On va choisir quelques cas, mais pour pouvoir les travailler en profondeur et rentrer dans le détail des interactions et des modalités. Alors, dernier point, j'ai mis l'impossible délimitation de la culture. Effectivement, parler de prescription culturelle ou parler de jugement culturel, c'est très très large et très très vague. Donc, nous avons fait le choix de ne pas définir a priori un domaine de la culture en disant « mais pour nous, la culture, ce sera ça, ça ou ça ». En partant du principe que dans les pratiques sociales, les gens ne cloisonnent pas leurs interventions, ne cloisonnent pas leurs pratiques, que tout ceci est lié. Et donc nous allons partir de leurs pratiques, comment eux inscrivent la culture dans leurs textes, leurs recommandations, la production, même si on va s'apercevoir que malgré tout sur nos corpus, on a une surreprésentation des industries culturelles au détriment, et ça rejoint un peu ce que disait Philippe Bouquet en introduction, au détriment notamment du spectacle vivant, hein, qui est beaucoup moins présent dans ces productions discursives. Alors, pour essayer de, un petit peu pour essayer de délimiter et choisir, parce qu'à un moment donné, la difficulté lorsqu'on travaille sur le web, c'est de délimiter, c'est de ponctionner, c'est d'extraire quelque chose. Et la particularité des évaluations culturelles ou des jugements, c'est qu'ils sont présents dans différents lieux, très différents des uns des autres. Donc, nous avons fait un travail un petit peu de mise à plat de tous les lieux de la prescription culturelle. Donc, voici un petit résumé avec des catégories non scientifiquement construites, mais plus par type de plateforme. Donc, des médias classiques, les médias classiques sur Internet, des blogs professionnels ou amateurs, qui sont très très nombreux, des blogs de lecteurs, des blogs d'associations de lecteurs, des sites de vente de produits. Donc là, on est sur le modèle classique avec le travail qui a déjà été fait, par exemple, sur des plateformes payantes, donc Amazon, la FNAC, où les gens vont juger, évaluer les produits. Des sites de pratique en ligne, c'est-à-dire là où les gens font directement de l'écoute, par exemple, donc YouTube, Deezer ou Vodcaster. Des agendas programmes, plus classiquement. Et puis, dernière catégorie sur laquelle nous allons plus particulièrement nous pencher et travailler, des réseaux sociaux numériques. En sachant que là aussi, la catégorie n'est pas construite scientifiquement, on va considérer que c'est des plateformes qui s'affichent ou qui revendiquent un fonctionnement de type réseau social. Mais je ne vais pas m'amuser à définir ce qu'est ou ce que n'est pas un réseau social, parce que parfois on va dire que c'est du microblogging, des fois on relève. Donc voilà un certain nombre d'exemples. Donc face à ce panorama, donc il a fallu nous choisir un terrain concret. Donc, j'ai mis l'impossible corpus, évidemment, hein, parce que la diversité des lieux d'apparition et des formes d'évaluation culturelle fait que, de toute façon, le ponctionnement qu'on va réaliser sera problématique et sera surtout instable. Donc, cette instabilité, on s'en est vite aperçu. On avait, par exemple, sélectionné un site qui s'appelle Artilinky. J'en dis deux mots parce que c'est intéressant par rapport à ce que Philippe Bouquillon avait dit en intérêt. Artilinky, qui était un site lyonnais, et il était intéressant pour nous parce que c'était un des rares sites qui mettait en visibilité des artistes. Et nous, ça nous intéressait de voir comment la prescription pouvait se réaliser directement entre des artistes et des amateurs. Donc c'était un énorme réseau social, international, avec une grande quantité d'artistes dans tous les domaines. Donc on a pris contact avec eux, on a commencé à travailler dessus, puis du jour au lendemain, le site a disparu. Que s'est-il passé? Donc nous avons pris contact avec eux et ils nous ont expliqué qu'en fait ils ont tout simplement changé de modèle économique, c'est-à-dire qu'ils ont gardé le réseau social d'artistes, ils l'ont fermé et le réseau d'artistes est devenu un vivier, hein, le terme qu'a utilisé Philippe Bouquillon. Ils se sont transformés en une agence de communication créative, c'est-à-dire qu'ils vendent les prestations des artistes à des grands annonceurs internationaux en revendiquant justement une expertise et la capacité de mobiliser des artistes dans n'importe quel domaine sous une forme de prestation. Donc en termes de modèle économique, c'était assez intéressant ce changement. Donc Artilinky n'était plus pertinent pour nous parce qu'ils étaient devenus une agence de communication. Et puis un autre qui est apparu récemment, donc là on ne l'avait pas prévu au départ dans le corpus, et puis Sansgood est apparu à la fin de l'année 2014 pour vous montrer donc un petit peu l'instabilité du milieu et la difficulté de fixer quelque chose. On a renoncé évidemment aussi à la notion de représentativité. Toutes les plateformes sur lesquelles nous allons travailler ne représentent qu'elles-mêmes, elles ne représentent en rien un marché ou un domaine particulier de la culture. Nous avons choisi aussi de manière alors là un peu arbitraire d'éliminer, on va dire, dans le cœur de notre travail, les poids lourds type Facebook en termes de réseau social, parce que c'est très difficile de travailler là-dessus, dans l'accès aux données, dans la sélection des profils, etc. Évidemment que Facebook rentre forcément dans notre travail, puisqu'il est lié aux différentes plateformes sur lesquelles nous allons travailler, mais il ne constitue pas le cœur de notre travail. Nos collègues en psychosocial vont y travailler un petit peu, parce que les artistes vont peut-être utiliser le réseau Facebook, mais nous, ça ne va pas être le cœur de notre travail. On a préféré choisir des réseaux sociaux ou des plateformes qui soient au moins spécialisées dans un affichage sur la culture. Donc on a choisi de développer donc deux méthodes de travail, une donc sur les réseaux sociaux numériques avec un corpus, on en a délimité un certain nombre, et puis la phase qui nous reste à réaliser, c'est ce que j'ai appelé un peu de manière un peu trivial, le carottage, c'est-à-dire que pour essayer de casser cette approche un petit peu par étude de cas, on souhaiterait choisir quelques produits culturels, un livre, un disque, etc., et absorber la totalité des discours post-consommation, c'est-à-dire pas les discours de promotion, hein, vraiment les discours d'évaluation et de jugement, de manière transversale et analyser à partir d'un produit la totalité de ces productions, ce qui nous permettrait d'avoir la diversité, la transversalité, la circulation, ce que l'on n'a pas lorsqu'on travaille uniquement sur certaines plateformes. Donc ça, c'est un travail qui nous reste à réaliser et qui techniquement n'est pas simple. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter deux réseaux sociaux rapidement. Un premier réseau social qui s'appelle Sens Critique et qui est assez connu et que vous connaissez certainement, donc qui existe depuis 2011. Donc il se présente comme le bouche-à-oreille culturel. Il propose donc de partager des avis, des notes, des critiques sur des produits culturels dont il a défini les catégories. Donc les catégories, vous les voyez un petit peu ici sur le menu. Donc les catégories qu'il propose, donc c'est film, série, jeu, livre, BD et musique. Donc en soi, déjà pour nous, c'est très signifiant de découper l'accès à la culture de cette manière. C'est-à-dire qu'ici, on aborde la culture par le produit. Et on est quasiment sur une étagère d'un grand centre commercial culturel et on aborde par le produit, avec un découpage. On est vraiment sur un réseau social, hein, c'est-à-dire qu'on construit son profil en le connectant avec Facebook, comme beaucoup de plateformes le font aujourd'hui. Et ensuite, on suit des gens, hein, on suit ce qu'on appelle des éclaireurs. Les éclaireurs sont des influenceurs, ils construisent là aussi une expertise dans la durée, et il est intéressant de voir, la plateforme a beaucoup d'inscrits, et notamment certains inscrits qui sont hyper actifs sur la plateforme, avec un véritable parcours culturel depuis plusieurs années. Donc je reviendrai là-dessus. Sensgood est un réseau social complètement différent, hein, puisque là, alors juste sur Sens Critique, on ne pratique rien. Hein, on ne lit pas, on n'écoute pas, on ne fait rien. On est uniquement ici, dans le cadre d'une évaluation et d'un jugement culturel. Il n'y a pas de lien direct avec une pratique culturelle. Dans Sensgood, c'est un peu différent, puisqu'ici, on est sur un site d'écoute. Hein, donc, on écoute des playlists. Donc, Sensgood est relativement récent, puisqu'il a été mis en ligne en novembre 2014. Donc, on l'a intégré un peu tardivement dans le corpus. Donc là, voilà la promesse, écouter les plus belles playlists de DJ, chef d'orchestre, artistes, médias, passionnés de musique, au réveil, au travail, etc. Donc là, la particularité, c'est qu'on a des influenceurs, des curators, comme ils disent, qui construisent des playlists et qui les proposent aux internautes. Donc là, ce qui m'intéressait dans les deux, c'est que le système de l'autorité, de la légitimité des influenceurs se situe et construit de deux manières différentes et se situe dans deux modèles économiques aussi assez différents. Donc nous avons donc sélectionné ces... Alors juste pour dire que Sensgood, la particularité, c'est qu'une fois que vous choisissez une playlist, le site va automatiquement se connecter. Si vous avez un compte Deezer payant, il va aller chercher chez Deezer les morceaux. Et si vous n'avez pas de compte payant, il va se connecter à YouTube pour avoir la musique gratuitement. Donc l'interface, en fait, fait cette connexion immédiate avec les sites de streaming musical. Donc nous avons sélectionné ces deux plateformes, qu'elles fonctionnent vraiment selon des modalités différentes. Elles affichent le statut de réseau social. Elles sont complémentaires parce que l'une est généraliste, Sens Critique est généraliste, l'autre est spécialisée. La musique étant un domaine qu'on va un peu plus approfondir puisque mes collègues qui communiquent à peu près en même temps dans l'autre session travaillent sur la musique dans le cadre du projet ici. Donc ce sont deux sites français qui ont le vent en poupe, qui fonctionnent assez bien et on s'est dit qu'il fallait rapidement les analyser parce que Sensgood, par exemple, est sur une logique économique d'une revente possible, c'est-à-dire qu'ils se projettent, ils veulent monter un projet, ils veulent le faire monter, puis ils imaginent être revendus, pourquoi pas à Deezer ou pourquoi pas à d'autres géants. Donc c'est des modèles économiques ou des plateformes qui ont des durées de vie plus limitées. C'est pas le cas de Sens Critique qui est vraiment particulier. Alors évidemment, je n'ai pas le temps de vous montrer en détail l'interface, le fonctionnement, etc., mais je peux vous en dire deux mots. Alors, ce qui nous a intéressé ici, c'est qu'on a donc deux modèles de l'influenceur ici qui sont très différents. Dans le cas de Sens Critique, la question de la reconnaissance de l'influenceur, c'est-à-dire l'influenceur ici, c'est le membre. C'est le membre du réseau, le membre qui est actif sur le réseau. Donc, cette reconnaissance, elle se construit par la pratique dans le réseau. C'est-à-dire, je le construis dans la durée, je le construis par mon niveau d'activité, et je le construis de différentes manières, je vais y revenir. Donc tout le dispositif, finalement, est construit pour mettre en visibilité l'activité. L'interface est très très bien construite et très bien élaborée, et il y a toute une série de paramètres qui permettent de mesurer et de mettre en avant surtout l'activité de chaque membre de la plateforme. Donc c'est une influence qui se construit a posteriori, par une expertise que l'on construit par la fréquentation régulière et constante de la plateforme. On a des évaluations du coup qui sont très personnalisées, hein, c'est-à-dire que chaque production, chaque note, chaque critique est directement liée à son auteur et l'auteur qui est un membre de la plateforme. Dans SoundsGood, c'est totalement différent, puisque les influenceurs ont été désignés par la plateforme a priori. Donc là, c'est une reconnaissance par un statut social que l'on a à l'extérieur de la plateforme. Statut social qui, encore une fois, est très variable. On le verra, les catégories sont très larges. Et donc là, on a une mise en visibilité des personnalités, ce qu'ils appellent les curators, qui ont une inscription sociale et une légitimité qu'ils ont construite a priori en dehors de la plateforme. Donc influence a priori par une forme d'expertise variée, hein, et une forme d'expertise qui n'est pas très développée, c'est-à-dire on fait confiance à la plateforme sur le fait qu'un tel est DJ, un tel est spécialiste de la musique du Bhoutan du 19e siècle, ou un tel est spécialiste de ceci ou de cela. Donc des évaluations, là en revanche, dépersonnalisées, c'est-à-dire que là le principe c'est la playlist, hein, c'est vraiment, donc on perd totalement la notion d'album, on perd la notion d'artiste musical, puisque la playlist devient l'appropriation d'un influenceur avec des titres plus ou moins, bon, c'est pour le bureau, c'est quand je suis fatiguée, c'est le soir en rentrant du boulot, c'est vraiment créer des ambiances, et l'objectif c'est de créer des ambiances musicales que les gens vont écouter en continu dans leur vie quotidienne. Alors des dispositifs distincts. Alors deux mots sur le dispositif. Dans le cadre de Sens Critique, on est dans un dispositif uniquement discursif. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'on a différentes modalités de production des discours. Je vais voir aussi des dispositifs qui traduisent des formes de discours en données, hein, c'est-à-dire qu'on a un dispositif qui mouline en permanence les données de tous les membres et qui rajoute une couche collective, c'est-à-dire des moyennes, des histogrammes, des historiques sur la durée, etc. Donc un espace de discours, hein, où les gens doivent, malgré tout, je reviendrai là-dessus, maîtriser relativement le dispositif qui est complexe. De l'autre côté, on est sur un dispositif plus simple, puisqu'on est sur un dispositif mode player, hein, c'est-à-dire qu'une fois que je clique sur la liste, je lance la musique et je n'ai plus besoin de m'occuper ou d'investir particulièrement la plateforme. Alors SoundsGood, évidemment, vous créez un profil, et vous gardez l'historique de vos écoutes, vous votez pour vos playlists et vous faites votre même, ce qu'ils appellent, je reviens sur la notion, la mémoire culturelle. Donc d'un côté, un dispositif complexe, alors Sens Critique, il est complexe, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez sur Sens Critique, il faut y passer du temps pour comprendre, pour investir et pour produire. C'est absolument pas un dispositif qui se donne dans l'immédiateté, et c'est pensé, hein, c'est-à-dire que ça nécessite un engagement. Lorsque vous venez sur la plateforme, c'est pour vous y engager. Et comme l'engagement cognitif est important, ça sélectionne. C'est-à-dire, ça sélectionne les gens qui passent et qui mettent trois notes et qui s'en vont. On n'est pas du tout sur le fonctionnement halluciné. Ici, on demande un investissement, donc ça trie. Forcément, ça trie les gens parce qu'il faut avoir une certaine maîtrise, il faut y passer du temps, il y a toute une série, il faut naviguer dans le site énormément. Contrairement à l'espace de SoundsGood, qui est un espace de pratique principalement, la recommandation étant une seconde étape, où là, on est sur la visite, on n'a pas besoin d'un engagement cognitif important pour rentrer et manipuler la plateforme. Alors, j'ai mis la force du collectif dans SoundsGood parce qu'effectivement, toute la plateforme est construite pour le collectif, c'est-à-dire que toutes les activités de chaque membre ont pour vocation d'être partagées. On part du principe que toute expérience esthétique et toute expérience culturelle n'a d'intérêt que dans son inscription sociale. Et c'est vraiment là-dessus que se base Sens Critique, c'est-à-dire que sans le partage, ça n'a aucun intérêt de voter, d'écrire quelque chose sur une œuvre. Donc tout le dispositif, et du point de vue de la gestion des données aussi, va fabriquer en permanence de la visibilité collective par des calculs, par des moyennes et par des remontées d'informations à partir de tous les membres. Donc l'entrée est individuelle, on rentre par les profils, les éclaireurs sont très individualisés. En revanche, la plateforme reconstruit derrière du collectif en permanence. Dans le cas de Sens Good, c'est totalement différent puisqu'on est sur une playlist, hein, c'est-à-dire qu'on fait confiance à un curateur et on a une pratique qui est individuelle, personnalisée dans la pratique et mes notes sont finalement peu visibles sur le site. On a beaucoup plus la personnalité des influenceurs qui est visible sur le site plutôt que des membres qui pratiquent. Par contre, on vous demande de partager sur les réseaux sociaux, etc. Je vous reviendrai là-dessus. Si j'ai le temps. Donc, quelques mots juste, je n'ai pas beaucoup le temps de développer, mais sur la question de l'autorité et de la légitimité, c'est-à-dire de quelle manière les dispositifs permettent par des outils de construire, de fabriquer, de consolider l'autorité et la légitimité qui est centrale dans toutes les pratiques d'évaluation culturelle ou de jugement culturel. Donc cette question de l'autorité est centrale dans les deux dispositifs. La particularité de cette prescription culturelle en général, c'est qu'on a une diversification des producteurs. C'est-à-dire que, bon, je ne l'ai pas dit, mais l'origine de ce projet, c'est qu'on travaille sur le journalisme culturel. Et puis, on est allé voir ce qui se faisait à côté, hein, c'est-à-dire les gens qui faisaient un petit peu la même chose, mais qui n'étaient pas des journalistes culturels. Hein. Donc, diversification des producteurs de critiques, hein, c'est vraiment dans cette problématique-là, qui engendre des dispositifs d'évaluation et surtout d'affichage permanent de la légitimité de la construction. Et sur Sens Critique, c'est étonnant de voir la manière dont les gens se prennent au jeu. Hein. Et quand on regarde certains profils, on a quelques doutes sur le fait que ce ne soient pas des profils professionnels, parce que lorsqu'on on analyse les registres de discours, on est vraiment sur la critique culturelle traditionnelle, et sur une approche patrimoniale des œuvres, je vais revenir là-dessus. Alors sur Sens Good, c'est particulier parce que donc la légitimité se construit par les influenceurs, et donc on a des catégories, alors j'ai dit qu'ils se valent pour elles-mêmes, il faut juste que je les retrouve, parce que les influenceurs sont classés par catégories, donc il y a DJ, il y a passionné de musique, il y a chef d'orchestre, enfin c'est des catégories qu'eux-mêmes ont construites, qui ne sont pas forcément signifiantes pour tout le monde. Parfois on désigne les gens par une activité sociale, parfois par leur métier, parfois par leur inscription dans un milieu social qui légitime le fait qu'ils deviennent des spécialistes ou des experts qui proposent des playlists. Et parfois aussi ce sont des marques. C'est-à-dire que le modèle économique de Sens Good vise à développer la construction de playlists par des institutions, voire par des marques. Donc c'est comme ça qu'ils sont en train d'évoluer, parce que là pour l'instant c'est le début, donc c'est surtout des personnalités, mais le modèle économique va tendre à la commercialisation de ces playlists. Ce qu'on voit aussi dans les dispositifs relatifs à cette notion d'influence, c'est la méta-évaluation, c'est-à-dire que le dispositif zéro, d'accord, permet de noter la critique. C'est-à-dire qu'on va toujours permettre aux gens d'évaluer la critique et donc ça, là aussi ça légitime. Donc on voit de quelle manière vous êtes classé, de quelle manière vous êtes consulté, de quelle manière vous êtes écouté, de quelle manière vous êtes lu. Bon, il va falloir que j'aille beaucoup plus vite. Donc juste sur les pratiques, donc j'étais sur les dispositifs, les pratiques, des pratiques sur Sens Critique, on le voit très bien, tous les membres développent des pratiques distinctives. C'est-à-dire qu'il s'agit de se distinguer de différentes formes par une spécialisation. Donc vous avez des histogrammes et des visualisations de données qui permettent de voir combien de critiques vous avez produit dans chaque musique, film, série. Donc on a des profils hyper spécialisés. Moi je suis des influenceurs qui ont plus de 5000 critiques uniquement en cinéma ou 3000 critiques uniquement au livre. Donc ça montre une hyper spécialisation et c'est un processus de légitimation aussi. Autre processus de légitimation, le niveau d'activité. En plus on produit, au plus on est actif, au plus on est présent sur la plateforme, au plus ça légitime nos propos. Autre élément, c'est l'ancienneté. Hein, c'est-à-dire que là aussi, on voit depuis quand vous produisez des critiques, ça en remontant à 2011. Autre notion, la collection partagée. Alors, dans un texte qui va sortir dans l'étude de communication, je n'ai pas le temps de développer, avec Julia Bonacorsi, on a travaillé sur cette notion de liste, hein, qui est récurrente dans la liste, la playlist, mais ça aussi la liste. Chaque influenceur membre crée des listes, mais des listes hyper originales. Donc la liste des films qui n'ont jamais eu de critique sur Sens Critique. La liste des 10 films où il y a quelqu'un dans une baignoire. La liste des 50 films où quelqu'un a un chapeau bleu, etc. etc. Donc par la pratique des listes, on crée aussi des expertises, une spécialisation et puis une originalité dans le profil. Je n'ai pas le temps de développer. Gestion du temps, juste deux mots là-dessus parce que c'est très important. Ce qui nous intéresse aussi dans la plateforme, c'est la manière dont la plateforme fonctionne sur une actualité industrielle, celle des sorties de l'actualité. C'est ce qui va être mis en une, c'est ce qui va être valorisé. Et la manière dont dans les pratiques, les internautes vont construire une autre temporalité, c'est-à-dire celle du temps long. Ils vont faire des critiques sur des films de 1910, 12, 20, 25, etc., qui ne sont pas du tout dans l'actualité, sur des réalisateurs qui ne sont absolument pas connus. Ils vont ressortir des pépites de l'histoire du cinéma dont personne ne connaît l'existence, etc. Donc ça, c'est très intéressant de voir comment ils construisent une autre temporalité. Et Sens Critique s'est d'ailleurs vu obligé de l'exploiter, c'est-à-dire que dans le lab, ils ont une partie expérimentale, ils ont créé une application qui s'appelle Best Of, c'est-à-dire qu'à partir de toutes les critiques des individus, ils recréent une histoire du cinéma en faisant le Best Of par décennie, de 1910 à 1900, donc en 2010, hein, et en prenant uniquement la production des membres, ils recréent une histoire du cinéma avec à partir des données produites et donc ils peuvent remonter jusqu'à 1910. Donc c'est intéressant de voir eux, comme eux sont obligés de revenir sur du temps long parce que la pratique des membres ne se centre pas sur l'activité industrielle des sorties cinéma, des sorties livres, etc. Bon, je suis vraiment désolée, il faut que j'aille beaucoup plus vite. Modèle économique, donc juste, je viens de le dire, Sens Critique vend de la publicité à partir de l'actualité culturelle, donc ils sont bien explicites sur le fait qu'ils ne vendent pas les données. Il y a tout un topo sur le site en rassurant les internautes, on ne vend pas les données, etc. Par contre, on vend les espaces publicitaires de sortie des films et des blockbusters. Sensgood est sur un modèle totalement différent puisqu'ils sont sur le B2B, c'est-à-dire qu'ils essaient de développer la marque blanche de l'expérience utilisateur musicale et ensuite de le vendre à des sociétés. Et ils veulent ensuite développer la création. Alors là aussi, on est sur le vivier, c'est-à-dire que leurs influenceurs vont devenir un vivier qu'ils vont mettre à disposition des marques pour créer des univers musicaux pour différentes marques. Donc on est sur le même principe qu'Artilinky que je viens de vous présenter. Je vais aller à la conclusion directement. Tac, tac, j'en avais trois, donc je vais en faire une seule. Donc simplement, on a voulu donc dans ce travail aller au-delà des implications marketing du terme prescription, c'est-à-dire le prescription en marketing, ça veut dire que c'est quelque chose qui va influencer sur l'acte d'achat. On voit ici qu'on est dans des pratiques beaucoup plus complexes et beaucoup plus diversifiées. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est d'aborder ces questions de prescription, de recommandation à partir de la notion de médiation culturelle. En quoi ces pratiques discursives autour des produits culturels peuvent être une forme de médiation culturelle? Parce que quand on voit les gens, la manière dont ils investissent les plateformes, de créer de la patrimonialisation, de créer des collectifs, de l'expertise, etc., on dit qu'il y a autre chose qui se joue que simplement une industrialisation. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes d'industrialisation, mais dans les pratiques, il y a aussi des détournements, des contournements. Donc, analyser ces pratiques en tant que pratiques sociales situées, donc dans des espaces, je l'ai dit, dispositifs techniques et économiques. Quelles sont les logiques à l'œuvre? Quels discours sur la culture sont à l'œuvre dans ces marchés de la prescription culturelle? De quelle manière on parle évidemment aussi. Quels sont les collectifs, finalement? Qu'est-ce que c'est que ces collectifs-là qui tentent à produire des référents culturels? Des repères, à dire bah, il faut écouter ça, ça c'est bien, ça on le classe, ça... Bon, j'ai pas eu le temps de revenir sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de la recommandation, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Donc évidemment, sur Sens Critique, j'ai mis en délègue totalement aux internautes la responsabilité de la construction des repères. Les propriétaires du site se font extrêmement discrets, ils s'expriment uniquement dans le blog et dans le lab, mais sur la plateforme, ils se font discrets, ils délèguent totalement la parole. Alors que sur Sensgood, au contraire, on a l'affirmation, hein, c'est-à-dire que nous, on est sur un modèle plus classique, où on affiche des spécialistes et les gens vont venir parce que ces spécialistes sont affichés. Donc on a des modèles très différents. Donc tout ça pour dire que c'est un travail qu'il faut approfondir, donc on n'a pas terminé. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la diversité, autant des pratiques que des modèles économiques qui sont en train de constituer dans ce marché de la prescription. Donc je suis désolée, j'ai été obligée de raccourcir. Merci.